Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente. C'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Victor Hugo, au XIXe siècle, déjà. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. L'émission Arcagna accueille des amis et des partenaires travaillant sur des problématiques similaires ou connexes. Dans ce cadre, tous les mois, nous diffusons un épisode du podcast Nous sommes forêts, réalisé par Almaz Vaglio et Charles-Maxence Laillet. Nous sommes forêts, c'est le rendez-vous sonore avec et pour les arbres, un podcast qui donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts. Comme l'écrit Charles-Maxence Laillet, et je le cite, « L'on entend le bruit de l'arbre qui tombe, mais jamais celui des forêts qui poussent. » Fin de citation. Alors tendez l'oreille et écoutons-les.
Nous sommes forêts.
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 Ce podcast donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts. Qu'ils soient porte-voix, célèbres ou anonymes, boucliers humains ou chamans ambassadeurs, ces hommes et ces femmes nous inspirent une autre manière d'être, plus consciente, plus reliée. On dit souvent qu'on entend le bruit de l'arbre qui tombe, mais jamais celui des forêts qui poussent. Et pourtant, elles sont là. Nous sommes forêts, ces graines d'avenir nous tracent un autre chemin.
Je vous propose avec ce nouvel épisode de Nous sommes forêts, d'aller à la rencontre de Laurent Winsbach, un journaliste audiovisuel devenu sophrologue. Spécialiste des plantes sauvages et des bienfaits de la nature, Laurent Winsbach parle aux arbres depuis près de 15 ans. Sa méthode, sensible et surprenante, il la transmet désormais aux humains. Nous voici avec lui dans son coin paumé, un petit paradis boisé, niché au cœur des Pyrénées ariégeoises.
C'est un spot que j'aime bien parce que pour proposer ce que je propose comme approche avec les arbres, j'ai besoin de différentes essences en fait. J'ai besoin que sur un même lieu, on puisse avoir des arbres d'essences différentes. Donc là par exemple, on a des châtaigniers, on a des frênes, on a des robiniers faux acacias. Donc ça, c'est des arbres qui se sont installés d'eux-mêmes ici. Et puis on a des arbres qui ont été plantés. Donc là, on a un magnifique thuya par exemple. Le thuya qu'on a l'habitude de voir complètement maltraité dans les haies le long des lotissements. Ben en fait c'est ça, c'est un arbre gigantesque, magnifique, complètement somptueux dans sa silhouette et que là on a dans sa pleine expression, c'est assez rare d'en voir des qu'on a laissé grandir. Et donc c'est cette diversité d'essences qui va me permettre de proposer aux gens une expérience immersive dans ce petit coin de nature au milieu des arbres, pour se rendre compte qu'en fait, nous avons tous, sans exception, c'est ce que je prétends, nous avons tous, sans exception, la capacité d'entrer en communication sensible avec ces êtres vivants que sont les arbres. Simplement, ça peut paraître fou de le dire comme ça, que nous sommes tous capables de communiquer avec les arbres, mais depuis le temps que je le fais, depuis le temps que j'organise des stages où je constate que 100% des gens ont cette capacité, en réalité, ce qui est fou, c'est que ça soit possible et qu'on ne le fasse pas, en fait.
Alors, Laurent Winsbach, bonjour. Nous sommes ici au beau milieu des Pyrénées ariégeoises, près de Foix. Et
tu te présentes comme tu es sylvothérapeute, ou en tout cas tu exerces une activité de type sylvothérapeute, et également coach de vie, d'accompagnement par la nature. D'où vient ce chemin et cette prise de conscience ?
Alors, c'est une histoire personnelle avant tout. Hein. Moi, mon histoire, c'est que je suis issu du monde de l'éducation nationale, en fait. Mes parents étaient professeurs, et quand j'étais petit, le monde se limitait au monde perçu par l'éducation nationale. J'ai eu besoin de sortir de ce monde-là quand je suis arrivé à l'âge adulte, et j'ai fait journaliste. Donc c'est le journaliste qui m'a ouvert, pourrait-on dire, sur le vrai monde. Et donc pendant plus de 20 ans, j'ai été journaliste, j'ai dû poser des dizaines de milliers de questions à des milliers de gens. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que poser toutes ces questions, c'était pas satisfaisant, et que c'était à l'intérieur que j'avais besoin d'aller chercher mes propres réponses aux questions que je pouvais me poser sur l'existence, en fait. Et la vie qui est bien faite et le hasard qui, à mon sens, n'existe pas, m'ont permis, suite à une période un petit peu dépressive, quand j'avais 36-37 ans, d'un seul coup de tomber complètement fou amoureux des plantes sauvages. Au printemps 2008, quand elles sont sorties de terre, ces plantes que j'avais jusque-là simplement admirées de manière contemplative, j'ai eu besoin de les connaître, j'ai eu besoin de les toucher, j'ai eu besoin de les sentir, j'ai eu besoin de savoir à quoi est-ce qu'elles servaient. Et à chaque fois que je parvenais, avec mes mots malhabiles de total néophyte, à en identifier une, je découvrais qu'elle était soit alimentaire, soit médicinale, soit les deux. Et ça a complètement bouleversé ma vision de la nature, mais ma vision de la société humaine aussi, parce que je me suis dit, si moi qui ai été un bon élève, on m'a pas appris ça, ça veut dire qu'on est dans un système qui nous tient éloignés de cette pharmacie à ciel ouvert, de ce garde-manger à ciel ouvert, entièrement gratuit. Donc il y a là tout un savoir, toute une connaissance, et ça a remis complètement en question ma vision de la société, en fait. Et je me suis dit, non, mais il y a des alternatives à trouver à ce système qui veut nous trouver des solutions uniquement de manière marchande, uniquement de manière chimique. Non, on a la capacité de se nourrir, on a la capacité de se soigner grâce à la nature. Et donc la vie qui est bien faite m'a guidé vers une formation qui s'appelle l'Université des Plantes, que j'ai suivie pendant 3 ans. Et la première chose qu'on faisait quand on étudiait une plante, c'était pas de s'enfermer dans une salle de classe derrière un pupitre. Non, c'était d'aller la rencontrer sur le terrain et de passer une demi-heure en tête à tête avec elle. La première chose qu'on faisait, c'est qu'on vivait la rencontre avec la plante en tête à tête avec elle. Et moi, qui avais une formation cartésienne, j'ai été stupéfait. J'ai cru que je devenais fou, en fait. J'ai été stupéfait de voir que quand je fais cette expérience, quand je m'autorise à vivre cette expérience d'aller rencontrer une plante en tête à tête, j'ai des messages. Il se passe des choses. J'ai des informations, je reçois des informations, et c'est pas parce que je suis chaman ou druide ou je ne sais quoi. Non, c'est juste parce que je prends ce temps-là. Parce que j'ai pris la peine de m'asseoir au pied de la plante.
Un temps d'écoute, en quelque sorte.
Un temps d'écoute, exactement.
C'est lié à cette méthode.
C'est simplement s'autoriser à aller passer une demi-heure avec un être végétal, qui est un être vivant, et à se dire, tiens, je vais le rencontrer. Donc pendant cette demi-heure, cet être végétal va être l'être le plus important de mon existence, et je vais l'observer, et je vais observer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, en termes de sensations corporelles, en termes d'émotions, en termes de pensées, de souvenirs. Et c'est ça qui va me donner une approche sensible de cette plante et qui va me donner à la fois un certain nombre d'informations sur la plante, mais aussi sur moi-même, en fait, et sur ce que je peux rééquilibrer à l'intérieur de moi, parce que chaque plante va m'inviter à un rééquilibrage.
Et alors, et les arbres alors, comment ça s'est passé, le fait de passer de plantes médicinales, de plantes alimentaires, d'êtres végétales, aux arbres, aux essences des arbres?
Alors, parmi les végétaux que nous étions amenés à utiliser, il y avait de temps en temps des arbres. C'était pas forcément pour moi les plus faciles d'approche, parce que j'étais trop impressionné par leur taille, en fait. Ça m'allait d'étudier une petite plante qui poussait dans une prairie, de devoir me pencher avec une loupe, etc. Mais dès que j'étais face à un arbre, j'étais impressionné par, on pourrait dire, son énergie, son aura, sa grandeur, sa majesté. Donc j'avais du mal à faire le distinguo entre les différentes essences. Et puis petit à petit, je m'y suis habitué. Et en fait, pour organiser des stages d'une année à l'autre, c'est plus facile de fonctionner avec les arbres qu'avec les plantes. Parce que les arbres, on a de bonnes chances, sauf s'il y a eu une tempête ou si un humain est venu les abattre, mais on a de bonnes chances de les retrouver exactement au même endroit d'une année à l'autre. Alors que les plantes, eh ben, on voit que là, on est sur une année particulièrement sèche, par exemple. Donc, eh ben, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes plantes qu'il y avait l'année dernière à la même époque. Donc, pour pouvoir amener des gens dans la nature à la rencontre du végétal, le mieux, c'est les arbres parce qu'ils ont une assise, une constance dans leur présence qui font que c'est plus pratique, on va dire, en termes d'organisation. Et puis, même si moi je viens de dire que j'avais eu du mal au point de départ avec les arbres, je constate que les gens, en général, eux, c'est plus facile pour eux d'établir le contact avec justement un être qui va en imposer par sa taille, par sa majesté, qu'avec une petite plante. Donc,
et justement, pour toi, comme tu nous le précisais, les arbres t'impressionnaient par leur taille, leur stature, cette forme-là, en tout cas, il a fallu, je ne sais pas si le terme correspond à domestiquer ou apprivoiser, ou en tout cas te familiariser avec eux.
Oui, oui.
Comment ce chemin s'est déroulé et comment ça se déroule dans tes stages, dans tes séances d'initiation, le fait d'approcher, de rentrer dans cette communication sensible, ce temps de communication sensible avec un arbre?
Alors, donc, la réponse à ta première question, c'est l'expérience en fait qui a fait que, à force de rencontrer des arbres, petit à petit, ce côté impressionnable qu'il y avait chez moi, je me sentais comme un gamin en fait, comme un tout petit enfant, etc. Petit à petit, j'ai laissé ça de côté et j'ai fini par vraiment ne plus avoir de masque émotionnel et réussir à rentrer directement en contact avec eux. Donc ça c'est voilà, à force de les fréquenter, j'ai pu faire abstraction de leur taille, j'ai pris l'habitude et j'ai cessé d'être trop impressionné, même s'ils m'impressionnent toujours favorablement, mais ça m'empêche pas de les rencontrer. Et ensuite, comment est-ce que ça se passe dans les stages découvertes avec les stagiaires? L'idée c'est que je sélectionne selon la taille du groupe 3 ou 4 essences maximum. Et j'invite pour la première rencontre chaque participant à choisir son chouchou. L'essence d'arbre vers laquelle chacun est le plus attiré. Pas besoin de le justifier, pas besoin d'avoir une explication mentale à ça, mais le fait est que spontanément, les gens sont automatiquement attirés plutôt par telle essence que par telle autre, etc. Et donc là, sans réelle autre consigne, je les laisse passer une demi-heure en tête-à-tête avec l'arbre qu'ils ont choisi. Simplement, l'idée, c'est faites la rencontre. Moi, je prétends que vous avez la possibilité d'entrer en communication avec eux, mais ne me croyez pas. Faites l'expérience et voyez ce qui se passe. Vivez cette demi-heure de rencontre. Et donc, en général, déjà, il y a pas mal de surprises, d'agréables surprises dès cette première rencontre. Et puis sur le reste de la journée, je propose de rencontrer d'autres essences, ce qui fait que les gens peuvent comparer entre leur première expérience, leur deuxième expérience, et puis sur une journée, on va faire 3 ou 4 essences maximum. Mais le fait d'en faire plusieurs va leur permettre de comparer, de s'apercevoir que, ah oui, effectivement, si je vais m'asseoir une demi-heure au pied d'un chêne, je vais vivre une expérience radicalement différente par rapport à si je vais m'asseoir une demi-heure au pied d'un bouleau. Et cette différence, elle vient pas de moi, qui suis la même personne avec les mêmes dispositions, la même humeur à ce moment-là. Elle vient vraiment de cet arbre et de cette essence que je rencontre à ce moment-là. Et l'idée, c'est de réussir, à force de rencontrer différentes essences, à mettre des mots sur qu'est-ce qui vient de cette essence. Qu'est-ce qui fait que dans ce que je vis, tout ce que je vis en fait fait sens. Tout ce que je vis de manière même subjective fait écho à ma rencontre avec l'arbre. Simplement dans ma rencontre avec l'arbre, c'est un peu comme si je me branchais sur, par exemple, là on va prendre le châtaignier. Donc si je vais me mettre au pied du châtaignier, je vais vivre, c'est comme si je me branchais à radio châtaignier. Donc je vais entendre la fréquence du châtaignier. Simplement, cette fréquence, soit je vais la percevoir pour ce qu'elle est et ne pas réagir émotionnellement, soit peut-être que cette fréquence, elle va éveiller quelque chose chez moi, un souvenir, des images, et que je vais émotionnellement réagir à cette fréquence. Donc là, l'idée, c'est que mon émotion, elle est toujours authentique, mais c'est peut-être une réaction à l'essence, à la quintessence de l'arbre. Donc l'idée, c'est à force, en partageant les expériences des différents stagiaires, de s'apercevoir qu'on a tous effectivement la même perception de la vibration originelle de l'arbre, mais qu'après, en fonction de nos vécus, on va en vivre une expérience qui sera, entre guillemets, filtrée par nos propres vécus. Alors, un exemple que je peux donner concret, une personne qui va avoir des difficultés à aller voir un chêne, ça va traduire une problématique avec l'autorité, par exemple.
Pourquoi cette relation entre le chêne et l'autorité ?
Parce que le chêne, en fait, dans ce qu'il dégage...
C'est lié à sa forme, son odeur, son apparence,
sa dimension. Sa manière d'occuper l'espace, on pourrait dire. Son nom verbal, hein, on parle entre humains de communication non verbale. Ben, un arbre, il a une silhouette. Il a une façon de prendre place sur la terre et de s'élever vers le ciel. Et cette façon est très différente selon que je suis un chêne, donc avec un tronc colossal, des branches maîtresses assez énormes et que je m'étends dans toutes les directions possibles en quelque sorte pour conquérir l'espace, donc avec une forme d'autorité, ou que je suis un bouleau qui va être uniquement dans le côté très longiligne, dansant, coloré, les feuilles qui gigotent.
Au niveau de son écorce.
Exactement. Donc on n'a pas du tout la même approche entre le chêne et le bouleau, par exemple. Et il y a des gens qui vont réagir à l'énergie du chêne en disant « Ouais, il pense qu'à lui, il occupe tout l'espace. » Et il y a des gens qui vont avoir des réactions comme ça. Et là, il suffit de demander quelle a été, en général, leur relation dans leur enfance avec leur papa. Et on comprend qu'il y a des choses qui sont à résoudre aujourd'hui, parce qu'elles sont toujours présentes chez ces personnes-là. Et que oui, elles confondent une autorité saine qui est celle du chêne, parce que le chêne, c'est un arbre qui, comme tous les arbres, ne demande qu'à être lui-même et à grandir tout simplement là où il pousse. Donc, c'est pas un conquérant, il n'est pas dans l'autoritarisme, mais il dégage, c'est vrai, une force, une puissance, qui, si on les considère comme étant dans notre camp, vont nous permettre de renforcer notre confiance en nous, notre audace, notre courage face aux aléas de la vie. Grosso modo, le chêne, quand les gens ils vont voir le chêne, souvent, je leur demande de noter ce qui se passe pendant leur expérience. Et quand ils lisent ce qu'ils ont vécu auprès du chêne, il y a beaucoup de formules à l'impératif. Le chêne dégage dans les messages qu'il envoie aux gens, « fais ci, fais ça ». Arrête de ci, arrête de ça. Donc il a cette autorité.
On va avoir des messages de cet endroit-là.
Oui.
Donc, et à ton échelle, par exemple, au niveau de ton parcours, un souvenir ou une expérience marquante comme ça de messages ou de. On n'est pas simplement dans la description d'une sensation, on est aussi dans la perception d'un message qui peut advenir. Donc, qu'est-ce que tu. J'imagine que tu as dû avoir une ou au moins une expérience extrêmement marquante, toujours vibrante en toi, d'une communication comme ça avec un arbre.
Alors j'en ai plein personnellement, mais je crois que celle qui m'impressionne le plus, c'est celle avec mes stagiaires en fait, parce que c'est celle que je vois pas forcément venir. Quand c'est pour moi, je dirais que oui, des fois j'ai des révélations, mais après ben, je les fais mûrir dans le cadre de mon propre développement personnel et c'est ok. Mais des fois j'ai des surprises, et notamment une fois un stage découverte, donc l'idée c'était pas du tout d'aller creuser en termes de développement personnel chez les gens. Et je demande toujours avant que les personnes aillent voir un arbre si elles sont ok. Parce que on peut être attiré par certains arbres, mais justement, il y a certains arbres qui peuvent nous faire réagir aussi de manière douloureuse par rapport à notre vécu, en fonction de ce qu'ils dégagent. Donc, je demande, et personne ne dit rien, personne ne s'oppose, et donc, on va voir un arbre, le robinier faux acacia, qui est un arbre qui pousse en groupe, qui pousse très très vite, qui va nous renvoyer à une énergie d'adolescence, on va dire, chez l'être humain. Et donc les stagiaires commencent à partager un peu ce qu'ils ont vécu, et on retrouve cette idée d'insouciance, de légèreté, d'être en groupe, en bande, etc., de s'amuser, de danser. Et puis il y en a une qui parle en dernier et qui dit « Ben moi, j'ai eu que des images de mort en fait avec cet arbre. » Et donc là c'est compliqué, derrière, d'expliquer que c'est un arbre de joie, de légèreté, etc. Donc j'ai renvoyé les autres stagiaires à la rencontre d'autres arbres et je me suis entretenu avec elle et je lui ai tout de suite posé la question « Est-ce que tu peux me parler de ton adolescence ?» Et elle me dit « Bah, moi, mon adolescence, elle se résume grosso modo dans ma mémoire à ma tentative de suicide. » Donc voilà, ça c'est le genre de truc. Je sais que ça marche, mais ça me bluffe quand même de voir à quel point quand quelqu'un va réagir à un arbre, en fait, elle avait parfaitement capté l'énergie adolescente de cet arbre. Simplement, comme chez elle, l'adolescence était associée à quelque chose de complètement dramatique et mortifère, eh ben, elle avait vu la mort en entrant en contact avec cet arbre. Son tort, entre guillemets, avait été de ne pas dire qu'elle n'avait pas envie d'aller le voir, parce qu'elle nous l'a dit après. Et j'avais posé la question, mais ben, elle y était allée à la force du mental, et ça, il ne faut pas.
Et un point que j'ai pu remarquer en venant te voir ici, dans ton domaine, dans ton pays, c'est que, ben en fait, il y a un eucalyptus dans ton jardin.
Oui.
C'est pas vraiment une essence du coin.
Non.
Et c'est un eucalyptus où il y a un bon fauteuil en bois posé à côté. Et donc, tu m'expliques, c'est un peu ton arbre, pas maître, mais un arbre avec lequel tu dialogues, enfin, de façon privilégiée.
Très fréquente. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vraiment dans mon jardin. Bah, déjà, donc, il est dans mon jardin, donc il est facile d'accès. Dans mon jardin, j'ai aussi figuier, bouleau, sumac de Virginie, saule, etc. Mais le spécimen, l'individu que je vais voir régulièrement, c'est cet eucalyptus par rapport à ce qu'il dégage, et peut-être que aussi parce que j'en ai plus besoin. Donc c'est effectivement, on pourrait dire, mon confident et mon maître spirituel favori. Après, il arrive aussi que, je dirais par réflexe, j'aille me mettre au pied de l'eucalyptus et que son premier message, ça soit me dire « Non, aujourd'hui, c'est pas moi ». et là, je cesse de fonctionner sur la base de mes habitudes, parce que si j'y suis allé vers lui, c'était un réflexe conditionné, et je me dis ah oui, ok, et là je reviens, je me centre, et c'est intuitivement que je vais regarder les autres arbres et que je vais voir celui qui m'appelle ce jour-là. En fait, c'est ça la meilleure des manières d'aborder. C'est pas d'y aller sur le plan mental en se disant, tout à l'heure je parlais du chêne qui donnait du courage, etc. On peut se dire, tiens, j'ai besoin de courage, je vais aller voir un chêne. Mais c'est mentaliser la chose, en fait. Et c'est vraiment pas ce que je recommande. L'idée, c'est que ça soit dans une forêt, dans un jardin, dans un parc, en pleine ville, etc. Observer les arbres et écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et se laisser attirer. Quand je présente vraiment sur un temps très court, alors le temps le plus court où je puisse le faire, c'est 2 heures. J'appelle ça du speed dating végétal. Quand je présente ces ateliers sur 2 heures, l'idée c'est ça, c'est laissez-vous attirer spontanément par l'arbre qui là maintenant tout de suite vous appelle, comme si vous aviez plusieurs prétendants et vous allez choisir votre préféré. Et en faisant ça, vous pouvez pas tomber sur un arbre qui va vous faire réagir négativement. Ça peut se produire dans des stages organisés où justement l'arbre va nous être plus ou moins imposé. Si la personne elle dit pas non, moi j'ai pas envie d'aller le voir, du coup elle va vivre une expérience désagréable. Si vous partez vraiment de votre intuition, de votre ressenti, vous allez forcément aller voir un bon arbre. Ça veut pas forcément dire que vous allez vivre une expérience que agréable. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience qui seront pas agréables, mais ça veut dire que vous êtes mûr pour avoir ces prises de conscience. Si spontanément votre être se dirige vers un arbre, c'est que vous êtes prêt à le rencontrer. Par contre, si vous passez par votre tête, votre mental, etc., là, vous pouvez faire des bêtises.
Et il y a des réflexions ou enfin, tout ce que tu nous partages est assez, on pourrait dire, bouleversant, quoi, hein, pour les bons citadins urbains habituels ou ceux qui ont suivi l'éducation nationale.
Oui, comme moi, mon point de départ. Si on m'avait dit ça il y a 30, 40 ans, que j'allais faire ça, que j'allais officiellement prétendre que oui, je communique avec les arbres, mais qu'on est en plus capable tous de le faire. Je n'aurais pas cru et j'aurais eu peur. J'aurais dit non, je veux pas grandir. Mais maintenant, je suis bien heureux d'avoir pris ce virage-là. Et merci au petit épisode dépressif d'ailleurs que j'ai vécu qui m'a permis d'oser faire cette bascule aussi.
Et on voit là, bon, c'est, ça devient de plus en plus, enfin on l'a tous à l'esprit, il y a non seulement les incendies, il y a aussi la déforestation, donc on est, avec le changement climatique, les arbres souffrent, donc on voit très bien que les arbres, les forêts en général, on est dans un temps de crise, on est dans un temps d'urgence, et en même temps, cette crise et cette urgence, elle est liée largement à la société, aux humains.
Ah bah oui.
Et toi, de là où tu es, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça te suggère de, quand tu vois ce, quand tu observes ces destructions et ces menaces?
Eh ben,
ces comportements.
Moi, ça m'incite à encore plus travailler sur l'intérieur, en fait. Je crois pas qu'on puisse s'en sortir en essayant de modifier l'extérieur. En fait, c'est intérieurement qu'on va pas bien, nous les humains. C'est nos propres conflits intérieurs qui font qu'on est autant en conflit entre nous, avec la nature, qu'on a autant besoin de compenser, donc de consommer. Tous ces massacres, toutes ces horreurs qu'on est capable de commettre à l'extérieur, à mes yeux, c'est faute d'un travail intérieur. Et l'idée, c'est que ce travail intérieur, et heureusement, chacun est libre de le faire ou pas. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse obliger les gens à faire un travail de connaissance de soi, de développement personnel, mais je crois qu'on peut les y inviter.
Ou en tout cas, le temps de crise devient un temps propice.
Voilà. Et parce que les gens vont mal, le fait est que les gens vont mal. Et justement, quand on voit ce que notre espèce fait à la nature d'où nous venons, qui devrait être notre partenaire, mais que nous traitons comme une adversaire et de manière complètement éhontée, forcément, ça crée un mal-être chez tout individu qui veut bien se donner la peine d'être un tantinet conscient. Et ce mal-être, effectivement, il peut fournir l'opportunité de se dire « j'ai envie, moi, de fonctionner autrement, j'ai envie, moi, de résoudre mes propres conflits internes, j'ai envie, moi, d'aller voir mes propres blessures et de les soigner, pour pas en rendre le monde extérieur responsable. Et moi, c'est plus je vois, on va dire, ces incohérences et cette maladie. Pour moi, l'être humain, il est malade aujourd'hui. Je crois pas que ça soit la nature humaine de détruire la planète. Je pense que c'est plus une maladie, et notamment une maladie mentale, parce qu'on s'en remet uniquement en tant qu'être humain à cet outil extraordinaire qu'est le mental, mais qui est devenu notre maître au lieu d'être notre serviteur. Et en fait, pour moi, c'est ça. L'idée, c'est que la nature et le contact avec les arbres nous permet de remettre ça à notre place. Remettre notre mental au rang de serviteur et non plus de maître. Et à chaque fois que j'organise un stage et que je vois le calme, la paix, et en même temps aussi des fois les souffrances que ça permet d'extérioriser et donc de libérer chez les gens, je me dis oui, on a là un outil de guérison extraordinaire qui me fait redoubler d'envie de le proposer encore plus en fait. Mais moi, ma réponse, mon militantisme, il est là. Il est dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je propose professionnellement. C'est inviter à ce que ceux qui le souhaitent fassent un chemin de connaissance de soi, un chemin de développement personnel et une sorte d'écologie intérieure, on pourrait dire, qui va ensuite se répercuter. Parce qu'une fois qu'on a cette relation à la nature, une fois qu'on a compris que ces arbres-là, c'est des maîtres de sagesse extraordinaires, une fois qu'on a compris que les petites plantes qui poussent, elles peuvent nous nourrir ou nous soigner, forcément, on va s'y prendre différemment, ne serait-ce qu'en marchant dans le jardin, on va faire gaffe où on marche. Donc si un jour on se dit, tiens, il faudrait que je construise une piscine ou un lotissement, on va dire, non, parce que là, il y a toute une richesse. Mais c'est pas sur un plan intellectuel, c'est sur un plan affectif qu'on va la sentir, cette richesse. Et ce qu'on aime, on n'a pas envie de lui porter atteinte. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit en ville, donc elle est complètement coupée de la nature, et quelque part, c'est pas sa faute si elle n'a pas conscience de la nature. Donc le tout, c'est de faire des propositions qui permettent de se reconnecter, et se reconnecter autrement, que ce qu'on faisait avant, parce qu'avant l'humain était connecté par nécessité, on va dire, parce que la ruralité faisait que ben, y avait besoin de connaître les saisons, etc. Aujourd'hui, c'est plus forcément nécessaire, mais le mal-être que vit l'être humain aujourd'hui, eh ben, ça peut être un levier pour amener les gens effectivement à se reconnecter, à sortir de l'entre-soi aussi. Ce qui est terrible dans une ville, c'est que l'humain est avec l'humain. Et on le voit quand on le sait en agriculture. Quand une espèce pousse sur de grandes surfaces et qu'il n'y a que cette espèce-là, elle est attaquée par les maladies immédiatement.
C'est le syndrome de la monoculture. Ouais.
Exactement. Et une ville, c'est une monoculture humaine, en fait. Si on n'y prend pas garde, si on ne repense pas à la ville pour créer des espaces verts, des endroits où, justement, on va pouvoir être en contact avec les autres règnes. On parle beaucoup du végétal, mais le règne animal, le règne minéral, mais pas simplement le béton, ont leur importance aussi. Et je crois que c'est ça qui va nous permettre de nous guérir. Et aujourd'hui, moi, ma vision des choses, c'est que nous avons besoin de nous guérir. Et le plus grand pas que je puisse faire, c'est commencer par me guérir moi-même. Et en me guérissant moi-même, je le constate depuis 15 ans que je me suis lancé sur ce chemin-là. Ça a des répercussions autour de moi aussi, ça a répercussions sur mes enfants, sur mes parents. Sur mes amis, ça se voit. Le changement que j'induis à l'intérieur de moi se voit à l'extérieur et a des conséquences à l'extérieur. Donc c'est par l'intérieur que je change l'extérieur. Voilà un petit peu comment je vis cette période agitée que nous traversons.
Merci Laurent et merci de nous avoir guidés ici au milieu des arbres qui sont tes compagnons de discussion.
Merci à toi.
Nous sommes forêt.
Que faire maintenant? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes forêts.
Voilà, c'était un podcast réalisé par Almas Vaglio et Charles-Maxence Laillé. Vous pouvez les soutenir, rejoindre leur association ou la personnalité et le projet que vous avez découvert en écoutant Nous sommes forêts. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêts. C'était Arcania, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Grégoire Nachez, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Arcania. Et surtout, ne lâchez rien. Belle journée à toutes et à tous.